J'ai répu totalement cette
Bonjour et bienvenue à Parole aux auditeurs. Il s'était tenu la semaine dernière à Kinshasa une conférence internationale sur la gestion des ressources naturelles en Afrique subsaharienne. Au cours de l'émission de ce jour, nous nous pencherons essentiellement sur les ressources minières. Nous savons que la RDC regorge d'importantes réserves, mais ce contraste persiste entre l'abondance de ces ressources et la situation d'extrême pauvreté dans laquelle vit la majorité de la population. Selon le ministre des Finances, le secteur minier à ce jour contribue pour moins de 30% au produit intérieur brut et représente en moyenne 10% des recettes publiques. Une certaine opinion s'interroge. Comment transformer ces potentialités en richesse? Ensuite, comment assurer une meilleure redistribution de ces richesses afin que la population en bénéficie? Monsieur Dieudonné Tamboué, coordonnateur adjoint chargé des questions techniques à la cellule technique de la coordination et planification minière, est notre invité. Il est du ministère des Mines. Titi Koutou, Clovis Oboula et Willem Mungamba sont à la réalisation de cette émission. À la présentation, Marie-Chantal Mouba.
Écho d'économie sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie, 18h15 heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Et si vous voulez participer à cette émission, vous avez trois possibilités. La première, c'est de composer le 081 890 69 69, le 081 890 69 69. Vous pouvez nous écrire à l'adresse internet pa@radiocapi.net ou encore envoyer un message à travers notre page Facebook Parole aux auditeurs. Nous savons que la RDC dispose depuis plus de deux décennies d'un code des investissements et aussi nous avons le code minier. Nous avons également adhéré à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives depuis 2005. Il y a aussi une systématisation à travers un décret de la publication des contrats de partenariat signés dans le secteur extractif. Mais également, il y a cette adoption en partenariat avec la Banque mondiale d'un ensemble de mesures visant à améliorer la gouvernance des ressources naturelles. Donc, sur le plan de la loi, il y a certaines améliorations pour que la RDC puisse se lancer et mettre fin à ce contraste qui persiste entre l'abondance des ressources en RDC, les ressources minières, et la pauvreté. Donc, comment transformer ces ressources minières en richesses et comment cette richesse peut être repartie à chaque citoyen afin de réduire la pauvreté. Donc, c'est la question du jour. Nous avons déjà Alfred de Lumbashi qui est en ligne et bien sûr, nous allons lire les messages de nos auditeurs qui nous ont écrit à travers les deux canaux que je vous ai cités en début d'émission. Bonjour Albert.
Bonjour madame.
Oui Albert, nous vous écoutons.
Oui, c'est Alfred à Lubumbashi.
Allez-y Alfred.
Oui. Madame, je salue vraiment cette émission. Je voulais d'abord attirer l'attention sur celui qui organise et réglemente la vie dans la société. Nous savons tous que c'est l'État qui réglemente la vie dans la société. Je vais vous donner un exemple. Je parle de cet exemple-là. À Kinshasa, dernièrement, nous avions vu le clown en régner. Il ne s'est passé pas une minute que les gens s'étaient, ils ont été battus, les histoires escortées, tout ça rapide. Mais ça s'est compliqué à travers la police. Ils ont arrêté la plupart de ces jeunes gens-là, les envoyés, même ça à Lubumbashi dans la prison, quand ça a été ailleurs. Je crois que ce mouvement a un peu calmé. Ça, c'est un exemple. Pour qu'il y ait vraiment la bonne gestion de nos ressources naturelles, il faudrait que l'État puisse vraiment s'impliquer. Puisse s'impliquer parce que quand nous voyons bien les mafias, les détournements, tout ce qui se passe dans la gestion des ressources naturelles, la plupart, il y a ce sont les autorités politico-administratives, voire militaires qui sont impliquées, qui sont complices. C'est à travers eux que se passent les suicides mafieux, que se passent les détournements, les pillages de nos ressources. Donc, moi, je propose ceci. Pour qu'il y ait vraiment la bonne gestion de nos ressources naturelles, il faudrait que tous les procureurs généraux s'impliquent activement. Parce que les acteurs qui sont impliqués à mal gérer, à détourner, à payer, ce sont les gens qui ont le pouvoir, les autorités politico-administratives et militaires. Et ce sont ces gens-là qui, dans la société, cherchent les infractions et punissent les auteurs. Mais cette fois-ci, ce sont eux qui sont impliqués. Alors, vraiment, c'est difficile. Non, ça peut tenir au cas où le procureur, puisque le procureur, ils sont chargés à défendre la société à travers le ministère public. Si le procureur vraiment a la bonne foi, avec ses OPJ qui sont amenés de bonne foi, ils sont là pour chercher même les autorités administratives, même militaires, qui s'impliquent dans le pillage, qui s'impliquent dans le détournement, afin que les ressources leur soient bénéfiques.
Merci Alfred. Donc, en vous écoutant, il faudrait un signal fort des institutions telles que l'exécutif et le judiciaire. Et également le respect des règles de bonne gouvernance, aussi afficher cette volonté en tout cas, lutter contre l'impunité grâce aux judiciaires. Nous vous remercions Alfred de Lubumbashi. Nous allons à Bukavu. Arsène, bonjour. Bonjour Arsène.
Bonjour.
Oui, nous vous écoutons Arsène. Qu'est-ce que vous proposez pour une gestion rationnelle des ressources minières?
Je suis très heureux de participer encore dans l'émission Parole aux auditeurs. Donc, sur les transformations des potentialités minérales, richesses de sous-sol, richesses de sol, en République démocratique du Congo, c'est inexistant selon mes propres analyses. Parce que les Congolais vivent toujours dans la vie des misères, il y a la pauvreté, il n'y a pas l'espoir pour la vie quotidienne des peuples congolais. Parce que regardez même nos ministres, leur façon de résister, leur façon de gérer des choses. Mais c'est le fou. Les Congolais restent toujours dans des situations critiques. Il n'y a aucun espoir. Nous avons ici, dans la ville de Bukavu, il y a les banderoles. Banderoles qui sont venus pour aider la population, pour voir comment ils peuvent transformer, déminérer. Mais combien de personnes qu'on a embauchées? Combien de développement? Jusqu'à ce que je vous parle, je suis dans mon bureau, j'ai essayé de descendre au niveau des frontières, de visiter. La route, il n'y a pas une bonne praticabilité de la route. Il y a des accidents qui tombent chaque jour et il y a des minéraux qui sont au Congo pour aller à l'Ouganda, pour aller au Rwanda, pour aller au Burundi. Nous avons fait aussi des séminaires de notre association. Donc, notre ONG locale, au niveau de Venga, Chabunda, au niveau de Kikutu, il y a autant de minéraux, mais la population reste toujours dans la vie de pauvreté.
Et s'il vous plaît, Arsène, Vous-même, vous avez constaté, d'ailleurs, vous-même, vous avez organisé des conférences où les gens réfléchissent. Ce forum qui a eu à Kinshasa, les gens aussi ont réfléchi sur la manière dont on peut mieux gérer ces ressources naturelles. C'est vrai que c'était une conférence internationale, mais nous, nous allons prendre que le cas de la RDC. Donc, déjà, à votre avis, les gens ont pris conscience de toutes ces potentialités. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en marche actuellement pour que le Congolais, tous les Congolais puissent bénéficier d'une manière ou d'une autre de ces ressources. Vous avez constaté qu'il y a des choses qui se font d'une manière qui ne soit pas assez légale, il y a des fraudes, mais qu'est-ce que vous proposez pour, par exemple, mettre fin à ces fraudes, parce que nous savons que le développement, c'est tout un processus.
Ok. Pour mettre fin à ça, Marie-Chantal, parce que on m'appelle, je vis dans mon bureau, je suis avec des mystères. Pour mettre fin à ça d'abord, la piste de police, il y a une seule chose que je montre d'abord. Regardez les histoires là des partis politiques. Si on vous met dans une entreprise, il fallait que vous soyez dans l'ANP, soyez aux majorités présidentielles. Il fallait d'abord aller, parce que quand on est dans les majorités présidentielles, et quand on n'a pas la volonté d'aider la population, ou quand on n'a pas la volonté de montrer la compétitivité de nous, la jeunesse de demain, Qu'est-ce que vous voulez pour la vie congolaise? Nous, marchons dans les pays étrangers, nous voyons ce qui se fait par rapport dans notre pays. Il est des bizarres, après nous rentrons. C'est comme si on change la couleur. Donc, ce qui est vrai, il fallait qu'on mette de bonnes gouvernances. Il fallait mettre des personnes à la place qu'il faut et regarder quelqu'un. Si on n'a pas une expérience politique des partis politiques, regardez nos DG aujourd'hui d'abord qu'on a reçu, d'échapper d'abord le sujet.
Oui.
Il fallait que vous soyez dans l'info pour que vous soyez le DG.
S'il vous plaît, Arsène. Alors, on ne va pas essayer. S'il vous plaît, Arsène, il y a beaucoup d'autres auditeurs qui veulent donner leur point de vue. On vous a écouté. Vous pensez que la population a déjà pris conscience de ce contrat et voir comment améliorer, parce que vous dites qu'il y a souvent des séminaires, des conférences qui se tiennent. Maintenant, comment exécuter cela? Vous, à votre avis, vous avez donné une proposition. C'est une question de compétence. Merci beaucoup, Arsène de Bukavu, okay. pour votre intervention au cours de cette émission. Et vous pouvez continuer, vous pouvez accueillir vos visiteurs qui vous attendent. Merci de nous avoir accordé cette dizaine de minutes. Blaise, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, madame Chantal.
Nous vous écoutons.
Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Nous vous écoutons. Quelles sont vos propositions?
Moi, je pense qu'il y a beaucoup de lois à voter. Et il faut normalement appliquer ces lois. Quand on applique ces lois et quand les gens qui se trouvent dans des pareilles mafias ou dans des pareilles choses qui sont contraires à la loi, peut sanctionner ces gens sans sanctionner. Moi, je pense qu'on va prendre conscience de bien gérer la chose publique.
Merci Blaise de Lubumbashi et nous essayons toujours de contacter notre invité, M. Dieudonné Ntamboué, qui est coordonnateur adjoint chargé des questions techniques à la cellule technique de la coordination et planification minière. C'est un bureau que l'on retrouve au niveau du ministère des Mines, avec notre invité, bien sûr, il nous dira qu'est-ce qui est déjà en train d'être fait au niveau du ministère des Mines, au regard des propositions que nos auditeurs sont en train de nous donner en ce moment, et aussi et quel est l'avenir, quelles sont les projections, les perspectives d'avenir dans ce ministère pour amener cette potentialité en richesse et que cette richesse soit bien redistribuée et la réalisation, Tsitsikoutou, Clovis et Lubuna continuent à pouvoir contacter notre invité pour qu'il puisse nous expliquer ce qui est entrepris au sein du ministère des Mines. Blaise de Lubumbashi, Monsieur François Ndekouye, Cosmas de Kisangani, restez en ligne, nous allons vous écouter tout juste après cette petite pause.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Blaise.
Bonjour.
Oui Blaise, nous vous écoutons. Quelles sont vos propositions?
Ma proposition, c'est la que je voudrais vous dire. C'est que si il faut une chance sur la chacun, vraiment, là, on peut bien gérer les
choses. Donc, vous avez dit l'application des lois, le respect des lois. Nous vous remercions, encore une fois, Blaise de Lumbashi. Et nous prenons M. François Ndikouyé. Bonjour, M. Ndikouyé. Bonjour, M. François Ndikouyé. Nous avons des problèmes avec la liaison téléphonique de M. François Ndikouyé, qui est directeur d'un cabinet d'études minières et environnementales. Nous pourrons le recontacter plus tard pour qu'il puisse nous dire, au regard de tous ces forums qui se tiennent, ces conférences, nous avons eu aussi à voir des rapports d'ONG internationales concernant la gestion des mines en RDC. Il y a également, par exemple, le rapport du Sénat, l'enquête que le Sénat avait menée pour pouvoir améliorer en fait les recettes de l'État dans ce secteur. Nous allons en parler au cours de cette émission. Prenons d'abord Cosmas de Kisangani. Bonjour.
Bonjour Marie-Chantal.
Nous vous écoutons, Cosmas.
D'accord. Je voudrais seulement parler concernant ce sujet qui est très important.
Mm-hmm.
Par rapport à nos richesses, les richesses que Dieu nous avait données. Sinon, nous risquons d'être appelés un jour et jugés aussi par Dieu lui-même qui nous avait donné cette bonne richesse-là que nous ne savons pas gérer. Madame, vous savez ce qui se passe à l'Est. Là, il y a les problèmes des mines, il y a les problèmes partout, le chef de l'État se promène, il arrête l'activité des mines partout. Ça, ce sont des bonnes choses et ça donne aussi l'exemple aux autres qui ne peuvent pas d'une manière illicite les mines, les sites de la RDC. Mais tout cela n'arrive pas à bénéficier par le peuple congolais, parce que le peuple congolais lui-même qui devait être le principal bénéficiaire n'y est pas. Et c'est comme s'il a été oublié. Alors, comment on peut transformer cela en une richesse? Bon, c'est la simple chose. D'abord, la volonté des dirigeants congolais eux-mêmes et aussi l'implication du peuple congolais. Parce que quand il y a encore les trafics illicites des mines en RDC, et surtout dans des zones là où il y a des guerres, vous savez que non, les guerres ne peuvent jamais cesser quand il y a encore les airs de l'air quelque part, à l'est, il y a les LRA, et ainsi de suite. En tout cas, c'est ce que je pouvais dire comme...
Donc, amener la sécurité dans ces zones où il y a toujours des forces négatives, des groupes armés qui sont en train de pilluler. Mais vous avez aussi soulevé une question assez importante, l'implication du peuple congolais. Que voulez-vous dire? Là, on a perdu Cosmas de Kisangani. Il aurait bien pu nous expliquer lorsqu'il dit qu'il faut l'implication du peuple congolais, nous dire à quel niveau le peuple congolais peut s'impliquer, est-ce que c'est les structures de la société civile qui doivent continuer à faire pression lorsqu'ils constatent la fraude, etc. Nous espérons peut-être qu'au soir, on pourra peut-être vous rappeler pour que vous puissiez nous expliquer davantage ce que vous pensez lorsque vous dites qu'il faut l'implication du peuple congolais. Gaston, vous êtes ici à Kinshasa, bonjour.
Bonjour madame.
Oui Gaston, nous vous écoutons.
D'accord, juste moi je vais aborder cet aspect ici. Je pense que le problème aussi c'est au niveau des accords. Des accords que notre pays n'a pas signé avec d'autres pays. C'est ce qui fait, disons, dans le cadre des contrats que nous qualifions actuellement des Lyonnais. Donc ces contrats-là se justifient par le fait que nous avons des minerais. Et comme vous l'avez dit, nous avons les minerais. Mais à quoi sert ces minerais si nous n'arrivons pas à transformer ces minerais sur place? Ceux qui, aujourd'hui, profitent de nos richesses, se disent d'être eux-mêmes les explorateurs, ils sont les transporteurs. Et après quoi, ils viennent nous revendre les produits manufacturés qui sont, disons, transformés à base de nos richesses ici, que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à tirer profit. Moi, quant à moi, je pense que le vrai problème, disons, la vraie solution pour qu'on puisse bénéficier de nos richesses, il faut d'abord arriver à explorer nous-mêmes. Que nous puissions explorer des richesses non seulement les découvrir, il faut aussi transformer sur place.
Ça demande beaucoup de moyens, et à votre avis, où tirer ces moyens, ces fonds pour commencer l'exploration? Parce qu'effectivement, au cours du forum qui s'est tenu à tout cette la conférence qui s'est tenue la semaine dernière, effectivement, le ministre des Mines, même celui des Finances, ils ont reconnu que nous avons tellement de minerais, il y a même ceux qui demeurent inexploités, inexplorés, et d'autres même sont mal connus, donc on ne sait pas trop ce que nous avons, à part ce qui a été découvert à l'époque belge. Donc vous voyez que peut-être qu'il y a autant d'autres richesses, et à votre avis, où est-ce qu'on peut tirer ces fonds pour commencer toutes ces explorations?
Bon, disons que ici, je suis en train de parler dans un cadre là, du Nord. Quand vous dites où est-ce qu'on va trouver les fonds, donc je pense que jusqu'à la fin du monde, on ne trouvera pas les fonds pour commencer ici. Disons qu'il y a des pays qui ont commencé quelque part. Disons, avec les petits moyens que nous avons, on peut déjà commencer à faire un pas, de telle sorte qu'à la longue, on pouvait, mais tant qu'on ne sait pas d'abord ces pas-là. Donc je pense, avec les petits moyens que nous avons, qui peuvent provenir des impôts passés par là, on peut déjà commencer à engager nos ingénieurs qui sont d'abord là, on ne sait pas voir leur impact sur le terrain. On peut déjà commencer à engager ces chercheurs là qui peuvent aller, disons, découvrir nos minéraux qui sont, disons, comme vous l'avez dit, introuvables jusque-là, non découverts. Moi, je pense qu'à mon niveau, le problème, c'est à ce stade-là. Donc, tant qu'on ne produit pas, on n'explore pas, on n'aura pas à bénéficier. Quand il se dit que non, nous n'avons que 30% du sol. Pourquoi? Parce que l'homme blanc, lorsqu'il vient, il dit que non, c'est moi qui explore. C'est moi qui transforme. Toi, qu'est-ce que tu feras avec tes richesses à cet état-là? Donc voilà. Donc c'est ça qui arrive, qu'il puisse s'imposer, surtout en ce qui concerne ce que nous devons gagner. Donc disons qu'on nous donne un droit de terre. Moi, je peux dire comme ça. C'est un droit de terre qu'on nous donne. Alors, vous avez les richesses sur votre territoire, mais comme vous ne savez pas quoi faire avec, nous, on va aller. Nous prenons ça à l'état naturel, étant donné que c'est quelque chose que vous n'avez pas, disons, acheté, c'est Dieu qui vous l'a donné à cet état, bénéficier de paix-là qu'on vous donne. Mais moi, je pense que ce n'est pas une meilleure politique.
Il faudrait
tout à cet état-là, une bonne politique serrée, et pour nous, à notre niveau, pouvoir explorer nos richesses, les exploiter, disons, les transformer sur place, et aussi, disons, les consommer d'abord sur les plans, disons, national, s'il s'agit de aussi. Exporter, disons, on peut le faire. Je pense, le problème, c'est à ce niveau-là, au niveau du contrat, qui fait que nous ne puissions pas bénéficier des noms minéraux parce qu'on ne sait pas quoi faire avec, bien qu'il y en a assez sur notre sol.
Merci Gaston de Kinshasa, de votre point de vue. Il faudrait petit à petit, en vous écoutant, faire un effort pour que nous-mêmes nous arrivons à explorer et voir dans quelle manière exploiter et peut-être même transformer, mais petit à petit, avec tout un programme, nous pourrons y parvenir. C'est ce que vous pensez. Merci encore une fois. Nous avons pu recontacter M. François Ndekouye. Bonjour, M. Ndekouye.
Bonjour, madame.
Vous êtes directeur d'un cabinet d'études minières et environnementales. Aujourd'hui, nous parlons de la gestion rationnelle des ressources minières. Dernièrement, il y a eu cette conférence sur la gestion des ressources naturelles en Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, nous nous intéressons uniquement du secteur minier. Nous savons que nous avons un potentiel. Nous avons un potentiel, mais nous n'avons pas assez de moyens pour le transformer en richesse. Cette richesse qui devra plus tard être bien redistribuée pour que chaque Congolais puisse en bénéficier. Et vous qui êtes expert dans le secteur, nous avons eu plusieurs auditeurs qui sont revenus dans la lutte contre l'impunité, sont revenus dans le respect des règles de bonne gouvernance, un signal fort du gouvernement. Ils ont pensé effectivement que le législatif a déjà fait presque l'ensemble du travail, mais il manque le suivi, l'exécution par l'exécutif et aussi le judiciaire qui devrait punir et sanctionner les auteurs des actions ou des fraudes ou tout ce qui peut aller avec. Et à votre point de vue, en tant qu'expert, que pensez-vous de tous ces avis des auditeurs?
D'abord, je dois préciser que j'étais directeur général d'un cabinet d'études parce que je suis élu et en ce sens, ma fonction d'élu est incompatible avec l'exercice de la fonction directeur général d'un cabinet d'études. privé. Mm-hmm. Donc, il faut mettre ça au passé. Mm-hmm. Et je pourrais peut-être y venir plus tard quand j'aurai fini avec mon mandat d'élu.
Mm-hmm.
Et donc, je voulais dire que les points de vue des auditeurs sont fondés les uns autant que les autres. Mais le problème est très complexe, hein, mm-hmm. au point qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a qu'à faire ceci et on a la solution. Et donc, il faut envisager des solutions à court terme, à moyen terme et à long terme. À court terme, il faudrait effectivement essayer de répertorier tous les acteurs du secteur minier et voir qu'est-ce qu'ils doivent à l'État congolais pour permettre à ce que l'État puisse avoir des recettes dans ce secteur. D'autre part, il y a des obligations qui sont liées au code minier vis-à-vis des communautés locales. Il faudrait qu'il y ait un suivi sérieux par des bureaux d'études agréés et compétents qui puissent conseiller ces entreprises dans la manière de la mise en œuvre de leur plan social. Ce serait aussi une contribution parce que beaucoup d'entreprises qui sont en phase de production aujourd'hui, leur investissement dans les questions sociales sont très marginales et font qu'il y a des conflits actuels entre les exploitants miniers et les populations environnantes. Et d'autre part, quand on regarde les minerais provenant de l'activité artisanale, mm-hmm. il faudrait fournir un effort pour doter les exploitants artisanaux des moyens qui leur permettent de travailler de façon plus efficace et moins dangereuse.
Mm-hmm.
Parce que vous savez très bien que dans les zones minières de l'Est, très particulièrement dans les grands Kivu, hein, par là du Maniema, du Sud Kivu, Nord Kivu, même dans les Haut-Katanga,
mm-hmm.
la plupart des minéraux sont exploités de façon artisanale.
Mm-hmm.
Et donc, il y a nécessité de doter de ces artisans des moyens qui leur permettent de travailler un peu en coopérative avec quelques engins qui puissent faire l'excavation, enlever la terre morte pour leur permettre d'accéder facilement aux minéraux. Et à ce moment-là, on peut arriver à rentabiliser tant soit peu cette activité. Mais moi, je ne suis pas partisan de l'artisanat minier. Je crois que les minéraux qui soient rentables ils doivent être exploités dans une activité industrielle parce que bien contrôlée, et beaucoup plus rentable parce qu'on y met beaucoup plus de moyens.
Oui, il y a cet avis de Gaston de Kinshasa qui estime que effectivement, ces allusions aux contrats qui sont signés souvent entre le gouvernement et ces industries minières où le gouvernement à un certain moment est en position de faiblesse parce que c'est vrai que le sol lui appartient mais il ne sait pas quoi faire de ces minéraux dans l'état naturel et à ce moment-là ce sont ces industries qui ont les capitaux pour pouvoir extraire, pour pouvoir, par exemple, les transformer. Et à ce moment-là, l'État, comme on dit, ne s'est pas bien négocié face à ces genres de personnes. À votre avis, est-ce que cela peut être renversé si l'État, comme on dit, mettait davantage de moyens dans l'investissement?
Oui, dans une certaine mesure, il a raison, mais d'abord, il faut relativiser ce point de vue.
Mm-hmm.
En fait, il faut dire que l'État a été en position de faiblesse pendant la période de la guerre.
Mm-hmm.
Parce que la plupart des contrats dits léonais ont été signés à l'époque de la guerre. Et quand on est en guerre, on a besoin de l'argent immédiatement pour pouvoir faire la guerre. Et aujourd'hui, il y a eu la réalisation des contrats miniers
mm-hmm.
qui a permis d'essayer de rééquilibrer la part des entreprises étatiques et celles des entreprises privées. Et donc, aujourd'hui, les entreprises étatiques qui étaient en contrat avec les entreprises privées, c'est notamment la Gécamine, la Somenki, l'Okimo, qui avaient des contrats avec des tiers, on a vu la part de ces entreprises étatiques augmenter. Et donc, cette histoire de contrat léonais, on peut dire plus ou moins qu'il est un tout petit peu au passé, d'autant plus qu'avec les cadastres miniers, ce n'est plus un système de contrat avec entreprises publiques privées, c'est chaque entrepreneur, qu'il soit congolais ou étranger, qui demande un titre et l'exploite selon les normes actuelles du code minier. Mais il a raison en ce sens que dans les systèmes du cadastre aujourd'hui, on distribue en termes de permis de recherche des zones non étudiées et parfois un entrepreneur ou une entreprise peut tomber sur un gisement trop riche qui aurait pu faire objet d'un appel d'offres, tenant compte de la quantité de minéraux qui se trouve dans notre sol. Donc, les études géologiques fondamentales et même l'exploration, il est impérieux, effectivement, quand dans les années à venir, dans 2 ou 3 ans, on puisse renforcer ces études avec les CRGM et la direction de géologie des ministères des Mines, pour que nous puissions nous-mêmes nous faire une idée des richesses que nous avons avant, effectivement, de les mettre sur le marché, de sorte qu'ils soient vendus à leur juste prix. Et donc, de ce point de vue-là, je suis d'accord avec l'intervention de notre
ministère. Nous savons que le développement, c'est un processus. À votre avis, avec la mise en place de tous ces paramètres pour permettre que les secteurs miniers soient florissants en RDC, et à votre avis, il faudrait combien de temps pour que le Congolais, parce que c'est ça la préoccupation, il se pose des questions, nous avons toutes ces recherches, combien de temps faudrait-il, par exemple, pour améliorer le budget de l'État, pour, par exemple, qu'un Congolais puisse ressentir qu'effectivement, le secteur minier a apporté quelque chose dans son développement?
Bon, déjà, dans 5 ans à venir ici, on les ressentira. Parce qu'en fait, les gens confondent les permis d'exploration ou de recherche et avec l'exploitation. Une activité minière en partie de l'exploration jusqu'à la production de la première tonne de minerais prend environ généralement entre 7 à 10 ans. Et donc, la plupart d'entreprises minières qui ont obtenu des permis d'exploitation ou de recherche en 2003, 2004, 2005, c'est cette année 2012, 2013 et 2014 qui vont commencer à exporter. Et donc, il faut aussi savoir qu'en exportant, les codes miniers donnent droit aux entreprises minières d'amortir d'abord les frais consacrés à l'exploration. Et donc, ils ne seront pas payés des taxes suffisantes tant qu'ils n'ont pas amorti les frais qu'ils ont consacrés à la recherche. C'est pour ça que ça prend du temps. Les gens ont l'impression que l'entreprise minière dribble, entre guillemets, l'État congolais. Pourtant, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation où c'est une activité de longue haleine qui prend du temps, effectivement. Et comme je viens de vous dire, il faut attendre entre 7 et 10 ans pour qu'une activité industrielle dans le domaine de l'or, du cuivre, du cobalt, puisse être réellement rentable avec des études de faisabilité, des études d'impact environnemental sérieuses et des études de bancabilité pour que le projet puisse être financé et commencer à produire des richesses.
Nous vous remercions, M. François Zécouillé. Je rappelle que pour l'instant, vous êtes député national. Vous avez été élu au cours de ces dernières élections de novembre 2011. Donc, vous avez mis fin momentanément, le temps de votre mandat, bien sûr, ou à votre cabinet d'études minières et environnementales, le temps de pouvoir, bien sûr, pouvoir représenter vos électeurs et la population. Nous vous remercions du temps que vous nous avez accordé.
C'est moi qui vous remercie, madame, de m'avoir donné la parole.
Parole aux auditeurs.
Et nous avons un changement d'invité. Au lieu de recevoir M. Dieudonné Ntamboué, nous aurons M. Dona Kapata, qui est coordinateur général de la cellule technique de la coordination et planification minière au ministère des Mines. Bonjour, M. Dona Kapata.
Bonjour, madame.
Pour l'instant, vous êtes à Lubumbashi. Il se tiendra, bien sûr, cette rencontre sur l'initiative pour la transparence dans l'industrie extractive. C'est là où il y aura un rapport qui sera publié. Nous sommes aujourd'hui en train de parler du secteur minier qui est le vôtre. Déjà, des auditeurs sont venus, ils ont donné leur point de vue. La question centrale, c'est comment, quelle est la vie qu'ils émettent pour pouvoir gérer d'une manière rationnelle les ressources minières en RDC. Et bien sûr, nous savons que la RDC regorge d'importantes réserves, mais il y a un contraste qui persiste entre l'abondance de ces ressources et la situation d'extrême pauvreté dans laquelle vit la majorité de la population. Bien sûr, c'est une potentialité qu'il faudrait transformer en richesse, afin que cette richesse soit bien redistribuée. Donc, restez avec nous, Monsieur Dona Kapata, le temps que nous écoutions une deuxième série d'auditeurs qui vont donner leur point de vue, et vous allez réagir face aux avis des auditeurs pour nous dire ce que fait le ministère des Mines actuellement et les perspectives d'avenir au regard des réactions et des propositions des auditeurs. Jean-Claude Tabounia, bonjour Jean-Claude.
Bonjour, madame.
Jean-Claude, nous vous écoutons. Quelles sont vos propositions?
Madame, je voudrais d'abord rebondir sur ce que vient de dire M. François, qui nous propose des solutions à court, à moyen et à long terme. Madame, le problème de notre pays, c'est un problème de volonté politique. Ce n'est pas un problème de long terme, de moyen, de court terme, non. Mais moi, je me rappelle toujours le président André Laurent-Désiré Kabila. Les gens qui ont vécu avec lui, ils décidaient sur place et tout commençait à marcher. Dans ce pays, nous ne pouvons rien faire. Pas qu'il y aura l'impunité, pas qu'il y a le non-respect de la loi, pas qu'il y a des Congolais spéciaux intouchables. Rappelez-vous de l'action qui avait été arrêtée à Goma, parce qu'on a bien recherché par la CPI. C'est impliqué, mais il n'a pas été inquiété. Je me rappelle du rapport qui a été de la radio du Vichy l'année passée, sur la période de Vichy. C'était largement utilisé. On a cité des noms, des gens qui font l'exploitation illégale. Mais personne n'a été touché. Donc, en bref, le problème, c'est d'abord organiser notre pays. Organiser la fonction publique. Qui est l'agent de l'État? Qui peut faire quoi? Qui peut recevoir des taxes? Après cela, nous verrons le reste. Je vous remercie, madame.
Merci, Jean-Claude. Vous êtes plutôt pour rebondir sur les propos de M. François Ndékouyé, qui est actuellement député national. Vous pensez qu'il faudrait d'abord lutter contre l'impunité, aussi restructurer l'administration publique. C'est votre point de vue que nous respectons. Nous redonnons directement la parole à notre invité, comme ça pourra réagir face à votre avis, Jean-Claude. Monsieur Donat Kampata, vous avez suivi Jean-Claude de Bounois. Que pensez-vous de cet avis pour une gestion rationnelle des ressources minières?
Je voudrais tout d'abord, corriger que je ne suis pas à Lubumbashi actuellement. Je suis à Congo de Fungurume. Vous connaissez bien qu'il y a une exploitation industrielle organisée par cette grande société. Je suis avec le ministre des Mines sur les sites. Et concernant la question posée, vous êtes sans ignorer que ce pays a connu des moments très 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 prospères dans l'exploitation de ces ressources minérales. Et vous savez bien que les budgets du pays dépendaient au moins aux environs de 75%. Mais actuellement, c'est parce que nous avons connu cette décadence qui est liée à une mauvaise gestion du secteur depuis l'époque de Mobutu. Et puis, il y a aussi tout ce que nous avons connu comme la récession des produits miniers à un moment donné depuis qu'on baissait. Actuellement, nous sommes dans l'embellie. Et c'est pourquoi moi je vous le dirai, avec les nouveaux produits que vous connaissez, que nous allons essayer de réviser d'un moment à l'autre, c'est vous dire qu'il y a eu un engouement dans les secteurs et nous avons actuellement plusieurs sociétés qui sont sur Katanga, qui sont dans l'exploitation, et ceux qui sont dans l'exploration minière vont entrer dans l'exploitation, et vous allez voir, et je suis convaincu, que d'ici de 2015, et ce pays pourra non seulement changer. Mais il y a un facteur
important.
Il y a quelqu'un à côté de vous. Est-ce que c'est possible de pousser un tout petit peu vous déplacer parce qu'il y a des interférences? Le temps que vous puissiez vous déplacer, nous allons écouter Mukumbi qui se trouve à Lubumbashi. Bonjour Mukumbi.
Bonjour, maman.
On n'arrive pas à vous suivre vraiment, l'ligne téléphonique se détériore davantage. Mais j'ai quand même retenu quelques mots. Vous dites qu'il faudrait réorganiser les structures qui existent déjà, voir dans quelle mesure relever les entreprises qui sont en faillite, mais on n'a pas pu suivre le reste parce que c'était pas assez agréable à l'audition. Nous allons essayer de pouvoir vous recontacter, Mukumbi de Lubumbashi. Robert, vous êtes à tout de suite, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Et qu'est-ce que vous nous proposez pour une gestion rationnelle?
Merci tout d'abord pour tous les débats que vous organisez lors de cette émission. Mais je voudrais d'abord savoir, est-ce que notre gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement congolais, respecte aussi toutes les propositions que les auditeurs vous donnent.
Nous ne sommes qu'un outil, donc nous sommes qu'un moyen pour porter l'information. Savoir s'ils ne respectent pas, c'est à vous, auditeurs, lors de l'exécution, l'application. Si vous avez constaté une proposition que vous avez faite le lendemain, vous avez eu, il y a eu une décision, une mesure qui a été prise, peut-être que à travers votre intervention, vous avez pu influencer peut-être d'une manière ou d'une autre certaines décisions. C'est tout ce que nous pouvons faire, nous, en tant que médias.
Oui. Bon, je voudrais tout d'abord appuyer celui qui avait proposé la lutte contre l'impunité. Parce que vous savez, ici, chez nous, au Congo, on dirait que lorsque quelqu'un a commis un forfait, on ne le fait absolument rien. Il n'est pas poursuivi. Je vous donnerai, par exemple, un exemple passable. Il y a eu l'ADG de la Sonal qui avait détourné aussi, qui avait fait l'objet des poursuites judiciaires. Mais aujourd'hui, il est député. Hein, qu'est-ce qu'on en a fait de lui? Alors, si vous voulez qu'il y ait un changement, appliquons ce que le monsieur qui m'avait précédé avait dit. Et aussi, nous devons appliquer la technocratie. Parce que ici, chez nous, au Congo, on propose, par exemple, quelqu'un qui a fait la maths physique, il devient ministre de l'Agriculture. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il connaît de ce domaine-là? Alors, nous devons appliquer la technocratie, c'est-à-dire l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Sinon, parce que celui-ci est mon frère, parce qu'il a besoin du boulot, on le met là où il ne peut pas travailler, nous allons toujours continuer à tourner.
Vous avez cité le DG de la Sonal qui avait été poursuivi. Il faut savoir qu'il n'avait pas été blanchi entre-temps, sur le dossier. Mais moi-même, je ne suis pas vous donner suffisamment d'informations là-dessus. Mais néanmoins, vous déplorez qu'il y a des personnes qui ne sont pas punies par la loi. Vous avez l'impression qu'ils sont au-dessus de la loi. Et vous parlez de la technocratie. N'oubliez pas que les postes ministériels, ce sont des postes politiques. Mais vous souhaitez qu'il y ait quand même des personnes qui ont des notions dans le domaine qui soient nommées à ces postes-là, qui sont d'une manière générale politique, donc qui donnent carrément l'idée maîtresse pour la gestion de ce ministère. Merci beaucoup, Robert, de qui quitte la ligne de notre invité s'est améliorée. Monsieur Kapata, vous êtes en train de nous expliquer les bases légales qui sont déjà mises en place pour améliorer ce secteur, que ce secteur devienne florissant en RDC. Nous vous écoutons. Toujours des problèmes avec la liaison téléphonique de notre invité. Et aujourd'hui, je rappelle que nous parlons du secteur minier en RDC. Nous savons que la RDC regorge d'importantes réserves. Et il y a toujours ce contraste qui persiste entre l'abondance de ces ressources et la situation d'extrême pauvreté dans laquelle vit la majorité de la population. Selon le ministre des Finances, le secteur minier à ce jour contribue pour moins de 30% au produit intérieur brut et représente en moyenne 10% des secteur public. Et pourtant, il y a quelques années, il y a quelques décennies, ce secteur a provisionné le budget à plus de 70%. Et il faudrait dire qu'il y a plusieurs personnes qui se posent des questions et s'interrogent. Comment transformer les potentialités de la RDC en richesse? Ensuite, comment assurer une meilleure redistribution de ces richesses afin que la population puisse en bénéficier? Voilà ces interrogations. La question centrale de notre émission, que proposez-vous pour une gestion rationnelle des ressources minières en RDC?
Parole aux auditeurs.
Et si vous voulez participer à cette émission, trois possibilités, le 081-890-69-69, nous écrire à l'adresse internet pa@radiocapi.net ou encore poster votre avis sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Bonjour, Kasunga.
Bonjour, madame. J'ai d'abord à poser une question que vous allez peut-être répondre d'une façon plus normale. C'est juste de savoir si notre gouvernement est toujours compte de toutes les réponses, de toutes les interventions de vos auditeurs.
Encore une fois, je vous rappelle que nous sommes un média, donc un moyen pour pouvoir diffuser l'information. C'est ça notre objectif primaire. Donc, nous diffusons l'information, nous dénonçons certaines actions et le reste, ce que les autres en font, c'est pas vraiment ça, mais nous faisons un suivi pour savoir est-ce que l'information qui revient, est-ce qu'on va encore une fois la rediffuser. C'est tout ce que nous pouvons faire, mais vous dire que effectivement tout ce que nous faisons influence une décision X ou Y, là, ça dépendra de vous, auditeurs, qui allez le constater sur terrain, et venez nous le dire encore une fois, pour que nous diffusions l'information. Nous vous écoutons, Tatsunga.
Oui, c'est juste, je dirais que ça dépend de la volonté de notre gouvernement, parce que depuis longtemps, nous étudions ça et nous continuons à étudier toujours ça au niveau de l'université. Et nous ne voyons pas le rendement des minéraux chez les exportations dans notre pays. Donc ça veut dire que le gouvernement doit tenir compte de cette volonté-là et que les générations futures puissent aussi voir de quoi s'agit des potentiels que nous contenons dans notre pays. Vous savez très bien, nous étudions ces ressources minières depuis longtemps et on ne sait pas si l'élément existe ou pas, puisque depuis l'époque belge, c'est toujours le même code que l'État utilise. Donc c'est là pour la suffisance que le gouvernement, donc c'est le membre de ce gouvernement-là et les autorités de ce pays, ils, dans leur poche, et non dans le pays, pour que le pays puisse en bénéficier, pour que cette population en bénéficie. Donc, cela prouve la suffisance aussi, madame, que l'État doit bien sûr prendre tout à charge, pas d'une manière particulière, mais que tout le monde puisse en bénéficier. Vous allez vous rendre compte que ces minéraux qui sont dans des villages, dans des territoires, mais demandez-nous aujourd'hui si réellement il a bénéficié, ils diront non. Mais c'est l'enrichissement de ces membres, de ces autorités, de ces pays qui s'enrichissent au-dessus, donc à l'issue donc, de cette population rurale qui, bien sûr, devait bénéficier par voie routière, je dirais bien, par des.
Donc, vous avez
là. Donc, vous allez vous rendre compte que même les partenaires qui, bien sûr, sont dans ce pays, devaient aussi faire quelque chose pour l'État, bien sûr, à raisonner dans ce sens, pour aider ces populations-là à pouvoir en bénéficier. Ils attendent parler peut-être une rencontre d'inactivement où on va attendre parler de ces ressources qui s'y trouvent. Les coltas, les cobalt, tout ça, mais demandez à toute population rurale si bien sûr la bénéficie. Donc vous allez vous rendre compte, madame, que ce pays, c'est un pays où nous vivons pour s'agir personnellement, où ne pas aider cette population de pouvoir aussi bénéficier. Donc de pouvoir aider, de pouvoir s'organiser et de pouvoir aussi regarder comment nous pouvons avoir une industrie de transformation. On ne peut juste de pouvoir quitter l'extérieur et de nous rendre nous-mêmes c'est encore plus cher.
Donc
l'État ne prend pas compte de tout ça.
Oui, merci Katsunga. Donc, la première proposition que vous avez faite, c'est de soutenir les étudiants qui mènent des recherches, des investigations dans ce secteur minier, utiliser leur travail de fin de cycle, les résultats de leurs recherches pour pouvoir l'appliquer dans le secteur minier. Et puis, vous êtes revenu sur la bonne gouvernance. Vous avez constaté qu'il y a ce fossé qui existe entre certains groupes de la population. Il y a des gens qui sont tellement riches et d'autres qui sont extrêmement pauvres. Et vous estimez qu'il faudrait à tout prix voir dans quelle mesure équilibrer cela, que le Congolais qui vit dans un village où on exploite le coltan, qui puisse bénéficier de cette potentialité qui se trouve dans son village et améliorer son quotidien. Merci Kasunga de Kinshasa. Olivier, vous êtes à Kikwit, nous vous écoutons, Olivier.
Ok, madame, merci beaucoup. Le sujet que vous traitez est très, très important pour le pays comme le nôtre. Et je vous rappelle une petite chose. Du 6 au 9 février 2012, il y a une réunion en Afrique du Sud qui a rassemblé plus de 7200 décideurs miniers. Et voici ce que Jeune Afrique donne comme résumé de cette affaire-là.
Mm-hmm.
Les États ont décidé de reprendre la maîtrise de leurs gisements pour en faire profiter les populations. Ça, c'est un très beau résumé, mais vous comprendrez que chez nous, la difficulté, ce n'est pas les décisions qui sont mal prises. Le problème que nous avons, c'est un problème d'application. Et aujourd'hui, notre pays vit comme un peu la marche sicilienne. Vous connaissez l'histoire de la marche sicilienne. Les gens qui sont censés résoudre les problèmes sont en fait ceux-là qui constituent le grand obstacle. On prend des décisions, mais en même temps, on est acteur négatif. Et c'est ça notre grand problème.
Oui. Et Olivier, par rapport à cela, vous avez dit qu'il y a eu ce forum en Afrique du Sud qui s'est déroulé le mois dernier. Est-ce que vous ne pensez pas le fait qu'il y ait souvent ces rencontres, ça permet à ces personnes de pouvoir prendre conscience de tout ce qui se passe et trouver des solutions? Parce qu'il faudrait d'abord réfléchir, il faut une idée, il faut un point de vue, il faut un programme et enfin exécution de ce programme.
Tout à fait d'accord. Mmh. Vous voyez, le problème en Afrique, c'est ça, c'est que les réunions, les forums, il y en a depuis 1960.
Mmh.
Depuis 1960, nous tenons des réunions. Et en ce qui concerne les mines, il n'y a jamais eu d'évolution. Notez par exemple qu'en RD Congo, l'activité minière ne contribue qu'à 3,6% du PIB. C'est une très grave. Alors que nous sommes parmi les grands producteurs des mines, tout le monde le sait. Alors, où vont les minerais? On ne sait pas. Où va l'argent? Parce que même si nous transformons localement, ce n'est pas une garantie que les recettes vont entrer dans la caisse de l'État. Nous avons laissé un chantier, c'est vrai, mais vous remarquez que ce sont les autorités, les dirigeants qui sont en train de construire pour eux-mêmes. Il y en a qui ont une affaire de 50 chantiers dans la ville de Kinshasa, tout le monde le sait. Ce ne sont pas les chantiers de l'État. Alors, ça, c'est l'argent des mines. Et la population, il n'y a pas une seule partie de la population qui peut prétendre bénéficier de cela. Vous avez suivi depuis plusieurs années le dossier de la Gécamine. Je vous donne quelques chiffres. Dans les années 80, la Gécamine produisait 450 000 tonnes de cuivre. En 2011, ils ont produit 21 000. Mais ça ne signifie pas que la RDC a produit 21 000 tonnes seulement. Il y a eu des tonnes qui sont passées sans être enregistrées. Ça, tout le monde le sait aussi. Et les autorités sont là, la justice est là. Et finalement, on ne sait pas si c'est la mafia qui fonctionne correctement. Et je crois que celle du Congo fonctionne vraiment très très bien, la mafia sicilienne, entre guillemets, en RDC Congo, parce que les magistrats, je ne sais pas, je risque d'accuser des gens qui n'ont pas les mêmes salles, mais en tout cas, les dirigeants, ils sont pour beaucoup. Et nous pouvons tenir 1000 forums. Si nous ne changeons pas de méthode de travail, notamment faire intervenir la justice de façon efficace, madame, je peux vous dire que le Congo sera toujours le dernier pays à bénéficier de ces richesses.
Oui, Olivier, merci beaucoup, Kasunga de Kinshasa, de votre intervention. C'est plutôt Olivier de Kikwit, de votre intervention. Donc, il faudrait mettre en place cette trilogie, leadership, bonne gouvernance et bonne politique pour améliorer le secteur des mines. Nous vous remercions de votre intervention. Nous prenons notre invité, j'espère que cette fois-là, la ligne s'est améliorée. Monsieur Dona Sapata, c'est pas facile, hein, mais lorsque vous êtes que vous gourmez en pleine mission d'inspection, vous allez voir, c'est assez difficile, mais vous êtes là avec nous. Donc, vous êtes en train de nous expliquer ce qui se passe actuellement dans le secteur de mines et aussi l'avenir. J'avais suivi le dernier auditeur, Olivier de Kikwit, qui pense qu'il faut mettre en place cette trilogie, leadership, bonne politique et bonne gouvernance pour que ce secteur puisse un jour ou l'autre, bien sûr, bénéficier aux Congolais. Qu'en pensez-vous? toujours ce problème de réseau téléphonique. C'est assez difficile aujourd'hui pour avoir les décideurs, parce que c'est assez important au cours d'une émission comme la nôtre d'avoir ces décideurs pour qu'ils nous disent ce qui est en train d'être fait, les perspectives à venir. Mais là, nous avons vraiment des problèmes avec la liaison téléphonique de M. Donat Kapata. Mais nous poursuivons cette émission. Si vous voulez participer, le 081-890-69-69, le 081-890-69-69, nous écrire à l'adresse internet pa@radiocapi.net ou poster votre avis sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Nous allons prendre Mangoyo qui se trouve ici à Kinshasa. Bien sûr, dans quelques minutes, nous aurons notre bulletin d'intervention. Comme chaque mercredi, nous avons une seconde partie de Parole aux auditeurs, 15 minutes après 11h, heure de Kinshasa. Bonjour Mangoyo.
Bonjour madame Chantal Lombard.
Nous vous écoutons. Quelles sont vos propositions pour une gestion?
Oui madame, c'est un sujet assez important. Ce n'est pas la première fois que nous l'exploitons sur votre antenne de Radio Capi. Madame, je crois que le problème du secteur minier n'est pas nouveau. On dit que c'est un système. Parce que lorsque vous regardez des pays qui nous entourent, on peut citer la Zambie, on peut citer l'Angola, et ainsi de suite, les problèmes que nous connaissons ici, très souvent, dans ces pays-là, ils ne les connaissent pas. Et j'ai suivi, c'est pour moi un député, qui s'appelle, je crois que c'est son nom, il a
oui,
fait
un
raisonnement là par rapport au temps, il faut 10 ans, 7 ans pour commencer l'exploitation. La question que je pose, moi, à l'époque, lorsque la Gécamines et les restes des entreprises minières produisaient beaucoup. Quel miracle, à ce moment-là, l'État congolais faisait.
C'est pas lié au temps, parce que la Gécamines a commencé depuis très longtemps, et les fruits de la Gécamines, c'est sûr, ça s'est étendu sur des années. Et même avant qu'on ait tant que la crise de la Gécamines, il a fallu du temps pour constater que la Gécamines était en faillite.
Madame Chantal, s'il vous plaît, parce que le temps en cours, je suis.
Ne vous en faites pas, Mangoyo. Nous allons vous garder.
Pour l'instant.
S'il vous plaît, Mangoyo, nous allons vous garder. Je vous invite à suivre le bulletin d'information, ça en 33 minutes. Donc, vous allez suivre avec moi et tous les auditeurs ce bulletin d'information. Après, nous allons reprendre parole aux auditeurs. Nous aurons à nouveau une dizaine de minutes. Et restez en ligne, parce que nous allons écouter votre avis tout de suite après le flash d'information.
Radio Capi est aussi avec vous sur la police, en direct avec toute l'équipe de Parole aux auditeurs. Parole aux auditeurs, parler, nous transmettons, proposer, nous discutons. Parole aux auditeurs, le lundi à vendredi à 11h et mercredi à 10h, heure de Kinshasa. Prenez la parole et nous vous écoutons. C'est sur Radio Capi.
Nous poursuivons parole aux auditeurs, deuxième partie comme chaque mercredi. Aujourd'hui, nous parlons du secteur minier. Nous savons que la RDC regorge d'importantes réserves. Il y a un contraste qui persiste entre l'abondance de ses ressources et la situation d'extrême pauvreté dans laquelle vit la majorité de la population. Et selon le ministère des Finances, le secteur minier à ce jour contribue pour moins de 30% au produit intérieur brut et représente en moyenne 10% des ressources publiques. Et pourtant, il y a cela quelques décennies, les recettes publiques provenant du secteur minier, c'était à plus de 70%. Et il y a des questions, les gens s'interrogent, l'opinion voudrait savoir, mais comment transformer ces potentialités en richesse? Comment assurer une meilleure redistribution de ces richesses afin que la population puisse en bénéficier? Voilà autant de questions d'interrogation. Aujourd'hui, nous en parlons dans Parole aux auditeurs avec une question centrale. Que proposez-vous pour la gestion rationnelle des ressources minières? Nous savons que ce sont des ressources qui sont épuisables. Et nous avons reçu plusieurs auditeurs qui ont pensé qu'il faudrait lutter contre l'impunité, qu'il faudrait une bonne gestion, mettre en place des bonnes politiques, avoir un certain leadership en place. Et ils ont donné plusieurs autres propositions. Nous avons gardé Mangoyo qui se trouve ici à Kinshasa, qui était déjà en train de nous expliquer ce que lui pensait pour pouvoir gérer d'une manière rationnelle les ressources naturelles. Mangoyo, vous pouvez poursuivre ce que vous étiez en train de nous dire juste avant le flash d'information. nous l'avons perdu à nouveau. Nous allons essayer de pouvoir le recontacter. En attendant que la réalisation recontacte Mangoyo, nous prenons Stéphane de Kananga. Bonjour Stéphane.
Madame, bonjour, chers auditeurs de la radio Papi. Je suis très content chaque fois que je suis ces émissions. Malheureusement, on est en train de parler à un sourd-muet. Le sourd-muet qui est quand même notre état. Dans l'école primaire, chaque fois, bon, on a toujours entendu parler que le Congo, c'est un pays riche aux habitants pauvres. Et c'est là, c'est comme si on ne comprend même pas ce qu'on est en train de parler. Et madame, ce que moi je peux proposer est que il faudrait d'abord l'établissement d'un état de droit pour que les richesses du Congo puissent bénéficier aux Congolais. Si on n'y a pas l'établissement d'un état de droit, alors les richesses ne vont bénéficier qu'aux plus forts qui sont détenteurs du pouvoir. Je vous en remercie.
C'est votre point de vue, Stéphane de Kananga. N'oublions pas qu'au cours de cette émission, nous avons invité pour vous le coordonnateur général de la cellule technique de la coordination et planification minière. C'est un bureau du ministère des Mines. Malheureusement, avec la liaison téléphonique, nous avons tellement de problèmes de pouvoir recontacter M. Dona Kampaka, qui devait nous expliquer ce qui est en train d'être fait actuellement et les perspectives pour le ministère des Mines, pour une meilleure gestion, pour comment ils sont en train de la politique actuelle au niveau du ministère des Mines. Mais nous avons réellement des problèmes avec sa liaison téléphonique. Nous espérons que prochainement, nous allons organiser une autre émission, toujours dans le secteur des mines. Et nous espérons cette fois-là, ils pourront, le ministre des Mines, ou bien son représentant, pourra venir au studio. Là, nous aurons moins de problèmes avec la liaison téléphonique. Mais entre-temps, prenons Pierre Mutombo qui se trouve à Kananga. Bonjour.
Bonjour, madame.
Et quelles sont vos propositions, Pierre?
Oui, madame. En attendant, parler des ressources naturelles, madame, c'est comme si la RDC est plus riche en ressources naturelles. Ah, parce qu'il y en a beaucoup. Mais la population est très pauvre. Nous vivons à moins d'un dollar par jour. Madame, pour moi, je préfère que le président de la République, le président de la République, lui-même a dit, non, c'est facile de voir travailler avec les gens qui ont la pension du pays. C'est pour cela, madame, je préfère que lui-même, président, là, puisse avoir un mot à dire dans le ministère. Parce que s'il n'y a pas mais suivi par le président lui-même, vraiment, il n'y aura pas quelque chose. Parce que lui-même a l'ambition du pays, a l'amour. Mais quand la population et le gouvernement, il n'a pas l'amour, vraiment.
Donc, vous revenez sur le fonctionnement correct des institutions exécutives, législatives, judiciaires, l'institution, la présidence, dans un domaine, dans un régime semi-présidentiel, et vous souhaitez que le président puisse vraiment s'investir, s'impliquer dans tout ce qui se passe dans le secteur de nous.
À la pension du pays, vraiment. Il a dit qu'il va travailler maintenant avec les gens qui ont la pension du pays. Maintenant, je préfère que cette fois-ci, dans son gouvernement, qu'il puisse impliquer toujours les gens qui ont la pension du pays.
Merci. Pas
vous dire non, parce qu'il est des préparations politiques, il est des filles. Non. Nous cherchons les gens qui ont la volonté.
La compétence. Merci beaucoup, Pierre Mutombo. C'est ce que vous nous dites aujourd'hui, voir dans quelle mesure le chef de l'État peut s'impliquer. Emmanuel de Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, madame Chantal.
Oui, Emmanuel, nous vous écoutons. Quelles sont vos propositions?
Bon, je crois que je vais ici d'abord appuyer celui qui venait de parler de la Gécamine, mais avant d'arriver là, je vais revenir à ceux qui m'ont précédé au début là, qui ont dit que nous manquons de moyens pour essayer de gérer ou bien commencer à exploiter nos ressources minières. Moi, je m'inscris en faux d'abord par rapport à ça, parce que je me rappelle, il y a une fois, quelque chose, j'avais suivi une émission sur Radio Okapi. Quelqu'un avait dit que la production, je ne sais pas si c'était la production de l'année de l'exercice passé ou la production minière avait rapporté à cela qu'il soit 296 milliards de dollars. Dans cette parole-là, qu'est-ce que les pays avaient bénéficié? Presque rien du tout. Alors, moi, je dis ceci. ou bien gérer nos ressources minières qui aujourd'hui sont presque dans des entreprises innombrables ici au Katanga où nous sommes par rapport à la Gécamine dans les temps anciens. J'aurais remarqué que aussi longtemps que la gestion était entre les mains de la Gécamine, les pays pouvaient bénéficier de quelque chose. Et nous le voyons ici à Lubumbashi, par exemple, les jours de la paix, les 15, partout, Lubumbashi, les Katikolodi, Tambo, Frakanda, partout, vous sentez qu'il y a de l'argent en circulation et tout le monde pouvait s'en sortir. Il y a des petites entreprises parties par là qui travaillent en collaboration avec la Gécamine et la population s'est retrouvée. Mais depuis que la Gécamine est tombée en faillite, aujourd'hui, il y a autant d'entreprises minières, mais la population ne se retrouve pas. Moi, je pense qu'il faudra ramener toute la gestion à la Gécamine. Aujourd'hui, la Gécamine, c'est pas l'argent qui manque à notre État pour donner à la Gécamine et répandre. Tout doit revenir à la Gécamine. Si on dit que la Gécamine ne peut pas encore commencer à être exploitée, mais que toutes ces entreprises-là passent par la Gécamine, que la Gécamine soit la seule à pouvoir exporter tout ce qui est produit ici et les autres récupèrent à partir de la Gécamine. Là, les pays, tout ça pourra se retrouver. Dire que il n'y a pas moyen que la Gécamine gère. Non, madame, ça, c'est pas possible. Moi, je crois qu'il faudrait qu'on ramène le tout à la Gécamine et vous allez voir que la gestion sera bonne.
Merci.
À part ça. Nous ne devons pas tout exploiter parce qu'ici, on est en train de dire qu'il y a encore des ressources qui ne sont pas encore exploitées. Nous devons savoir qu'il y a des générations qui vont venir après nous. Nous ne devons pas tout terminer. Nous devons exploiter ce que nous avons à exploiter pour le moment et réserver encore autre chose pour les générations à venir. Moi, je crois que c'est ce qu'il faudra faire.
Merci, Emmanuel de Lubumbashi. Vraiment, si notre invité, on avait pu rester avec lui dans cette émission, parce que nous avons des problèmes avec sa liaison téléphonique, peut-être qu'il aurait pu vous donner plus d'informations concernant ce qui est en train de se passer actuellement à Lubumbashi, avec cette multitude d'industries minières qui sont en place. Pourquoi ne pas passer par la Gécamine? Lui, un expert, au moins, pourrait vous donner plus d'informations à ce niveau-là. Mais nous espérons prochainement, nous allons organiser notre émission et nos invités, nous allons vraiment leur demander si c'est possible qu'ils soient avec nous dans ce studio pour qu'ils puissent commenter vos avis, surtout vos propositions pour nous dire qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire et qu'est-ce qui est en train d'être. Ça sera assez intéressant cet échange-là. Mais ce n'est que partie remise. Merci beaucoup, Emmanuel de Lubumbashi. Prenons Mangoyo, ce sera le dernier auditeur de cette émission. Mangoyo, vous avez déjà pris avant le flash d'information. Essayez de vous recontacter après le flash. On a eu des problèmes avec votre liaison téléphonique. J'espère que vous êtes là, Mangoyo.
Oui, je suis toujours là. Bonjour, merci. Je crois que je disais que le problème est. Dans notre pays, après qu'on s'est fait réunir, c'est un problème qui, en fait, s'apparente comme étant un système qu'on a mis en place, un système massif. Parce que, regardez un peu partout, j'ai dit, les pays qui nous entourent, qui ont les mêmes ressources pratiquement comme nous, mais ils ne connaissent pas toujours les mêmes problèmes que nous autres. Vous savez qu'à côté des secteurs miniers, madame, il y a aussi le secteur de télécommunication, par exemple. Parce que quand on nous dit que même pour les recherches, il faut chaque fois recourir à l'étranger. Mais nous avons formé, nous, des géologues, des experts que nous avons formés dans notre pays. Pourquoi même au niveau de la prospection, il faut chaque fois recourir à l'expertise extérieure. Ça, c'est même une injure pour l'élite congolais. Moi, je pense que le chef de l'État qui est le garant, le chef de l'État qui est le garant du bien-être social, le garant de tout, de la sécurité ainsi de suite, doit s'investir dans les secteurs porteurs de richesse où la mafia règne à système. Madame, les télécommunications, vous vous souvenez à l'époque, il y a eu une commission sénatoriale qui avait déclaré à sa conclusion que, par exemple, les télécommunications paraissent comme un bien sans maître. C'est grave, sauf que le Sénat qui a déclaré ça. Donc, moi, je pense que nous faisons une transposition, même le secteur minier apparaît comme un bien sans maître. Tout le monde y va. Mais alors, il y a l'impunité. Je crois que le jour où on va vraiment commencer à sévir, le jour où on va commencer, le chef de l'État va dire, écoutez, vous n'avez pas bien géré, ainsi de suite, je crois qu'on aura vu clair dans ce secteur minier, qui est quand même un secteur porté de richesse. Il faut pas attendre 10 ans, 20 ans, 6 ans, pour qu'on ait la
vie
de ce secteur. C'est un système mafieux qui a été mis en place et qui continue à fonctionner.
Merci beaucoup, comment arriver à ça?
La solution
n'est pas par 4 s'il vous plaît, Mangoyo. S'il vous plaît, Mangoyo, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous remercions de votre intervention. Pour tous nos auditeurs, il faudrait un leadership fort, une bonne politique dans ce secteur, mais aussi l'application l'application des règles et des normes de bonne gouvernance. Nous allons nous retrouver demain pour un nouveau numéro de Parole aux auditeurs. Et demain, nous parlerons théâtre en marge de la journée internationale célébrée chaque 27 mars. À votre avis, quel est l'apport du théâtre congolais dans le développement? Vous pouvez réagir dès à présent. Nous écrivons à l'adresse internet pa@radiocapitaine.net ou encore en postant votre avis sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Merci à toute l'équipe, Titi Koutou, Clovis Louboula et à Willem Lundamba qui ont réalisé cette émission. Donc, vous pouvez sur Radio Tapi pour la suite de ce programme.